Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la Géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 18 février 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone et iranienne. Bienvenue dans le journal. L'ennemi sait que l'Iran n'a jamais cherché à se doter d'armes nucléaires, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Nous sommes plus proches que jamais d'un accord, selon le négociateur des Iraniens dans les négociations à Vienne, M. Ali Bagheri. Selon Ansar Allah, des dizaines de positions ont été libérées par la résistance au Yémen. L'OTAN mène une agression médiatique contre la Russie, estime le Kremlin. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a une fois de plus souligné que l'Iran n'avait jamais cherché à se doter d'armes nucléaires. Les ennemis savent que nous ne cherchons pas cela, que nous ne recherchons pas une arme de nucléaire. Nous cherchons à tirer parti de l'énergie nucléaire de manière pacifique. Ils le savent. Le guide suprême de la révolution islamique a poursuivi. De jour en jour, le monde devient de plus en plus dépendant de l'énergie nucléaire. Tôt ou tard, nous aussi, nous aurons un besoin inévitable de l'énergie nucléaire pacifique. Si nous n'y pensons pas aujourd'hui, ce sera tard. Demain et nos mains seront vides. Nous allons revenir en détail sur ces propos du guide suprême de la révolution islamique dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a exprimé l'espoir que la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie serait résolue par la voie diplomatique et le dialogue sans ingérence étrangère. Amir Abdollahian a fait sa remarque lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien, au cours duquel les deux hommes ont discuté des questions bilatérales ainsi que de développements internationaux majeurs. Élaborant sur la crise actuelle dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, le chef de la diplomatie iranienne s'est dit satisfait que les tensions le long de la frontière des deux pays diminuent. Exprimant l'espoir que la situation actuelle entre la situation actuelle en Ukraine serait résolue par le dialogue et des voies diplomatiques et sans ingérence des pays tiers, Amir Abdollahian a souligné « Nous exigeons le maintien de la paix et de la stabilité dans la région ». Nous sommes plus proches que jamais d'un accord, a dit le négociateur iranien. Le négociateur iranien a assuré que les parties étaient plus proches que jamais d'un accord sur le programme nucléaire. Après des semaines de pourparlers intensifs, nous sommes plus proches que jamais d'un accord. Toutefois, rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu, a tweeté le négociateur iranien Ali Bagheri. Nos partenaires de négociation doivent être réalistes, éviter l'intransigeance et tenir compte des leçons des quatre dernières années. Il est temps qu'ils prennent des décisions sérieuses, a-t-il aussi ajouté. Plus tôt, Téhéran avait affirmé vouloir, en gage de garantie, une déclaration politique du Congrès américain dans laquelle les États-Unis s'engagent à revenir à l'accord sur le nucléaire et à le mettre en œuvre. Par principe, l'opinion publique en Iran ne peut pas accepter comme garantie les propos d'un chef d'État et encore moins de celui des États-Unis en raison du retrait des Américains en 2018, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Le chef de la diplomatie iranienne avait révélé avoir demandé aux négociateurs iraniens de proposer aux parties occidentales qu'au moins leur parlement ou leur président, y compris le Congrès américain, puisse proclamer sous la forme d'une déclaration politique leur engagement envers l'accord et à revenir à la mise en œuvre de l'accord. L'Iran a rejeté dans le même temps le rapport de l'agence Reuters sur l'accord dans les pourparlers de Vienne. Dans un développement pertinent, et plus tard jeudi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères de Saïd Khatibzadeh a réagi au faux rapport de Reuters dans un tweet disant « La désinformation déguisée en reportage est dangereuse ». L'Iran a rejeté un rapport de l'agence de presse Reuters sur un accord rédigé lors de pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord iranien de 2015. Le membre du bureau politique suprême du Yémen, la plus haute instance politique d'Ansar Allah, fait état d'importantes conquêtes et d'importantes choses qui sont arrivées, mais qui n'ont pas été encore été annoncées. Lors d'une interview avec la chaîne de télévision libanaise d'information Al-Mayadin, Mohamed Ali Al-Houssi a confirmé que des dizaines de positions situées à Arras, district du gouvernorat de Hadjat, aux confins avec l'Arabie Saoudite, ont été libérées après de rudes combats avec les forces du président démissionnaire contesté Abderrabo Mansour Hadi et de la coalition d'agression saoudienne. Le temps mène une agression médiatique contre la Russie selon le Kremlin. La présidence russe a affirmé que la tension militaire dans la région de Donbass, au sud-est de l'Ukraine, s'est considérablement accentuée au cours des dernières 48 heures, qualifiant la situation là-bas de très dangereuse. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a expliqué aux journalistes que les autorités de Kiev avaient mobilisé d'énormes forces sur la ligne de contact avec les deux républiques déclarées unilatéralement de Donetsk et de Lugansk, soulignant que, en même temps que les représentants de plusieurs États et organisations occidentales, dont l'OTAN, mènent une agression médiatique contre la Russie. 5 militaires nigériens ont été tués et 2 autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine posée sur leur route par des terroristes de haut niveau du village de Sakia dans la région de Tillaberi dans l'ouest du pays proche de la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé le ministère nigérien de la Défense. Aux environs de 11 heures, de retour d'une patrouille de vérification l'application de renseignement un véhicule d'une unité des forces armées nigériennes du poste militaire de reconnaissance de Tivar a roulé sur un engin explosif improvisé dans les environs de Sakia, département de Otiès, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Pour rappel, la zone dite des trois frontières Niger, Mali et Burkina Faso, dans laquelle se situe de Sakia, est devenue ces dernières années le théâtre d'opérations de groupes terroristes qui mènent des attaques meurtrières de la part et de d'autres des frontières en visant les forces armées et les populations civiles. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'ennemi sait que l'Iran n'a jamais cherché à se doter d'armes nucléaires, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a une fois de plus souligné que l'Iran n'avait jamais cherché à se doter d'armes nucléaires. Les ennemis savent que nous ne cherchons pas cela, que nous ne recherchons pas une arme nucléaire. Nous cherchons à tirer parti de l'énergie nucléaire de manière pacifique. Ils le savent, a souligné le guide suprême de la révolution islamique et de poursuivre. De jour en jour, le monde devient de plus en plus dépendant de l'énergie nucléaire. Tôt ou tard, nous aussi, nous aurons un besoin inévitable de l'énergie nucléaire pacifique. Si nous n'y pensons pas aujourd'hui, ce sera trop tard demain et nos mains seront vides. Ils savent que le programme nucléaire iranien est pacifique. Ils font pourtant des allégations absurdes pour insinuer que l'Iran est proche de produire la bombe. Ils veulent que la nation iranienne soit confrontée à des problèmes quand demain elle aura besoin de cette énergie. Et de l'Ayatollah Khamenei de préciser pour ce qui est du plan global d'action conjoint en 2015 et 2016. Mon objection était que certains points devraient être observés dans le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire, pour qu'aucun autre problème ne se pose plus tard. Eh bien, certains d'entre eux ont été ignorés, donnant lieu à de ces problèmes possibles dont on est témoin aujourd'hui. Il y a deux outils entre les mains de l'ennemi pour séparer le peuple de l'ordre islamique, changer la pensée et la façon de penser des gens. L'hostilité économique et l'hostilité médiatique. Les jeunes doivent s'y opposer. La nation iranienne doit s'opposer à ces deux attitudes. Sur le plan des diplomatiques, nos estimés frères révolutionnaires travaillent pour la levée des sanctions et convaincre l'autre partie. C'est bien, mais le plus important est d'annuler les sanctions via la production nationale, le dynamisme économique et l'économie basée sur le savoir, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Le slogan de la révolution a-t-il précisé de résister aux puissances arrogantes. Dieu soit loué, la nation iranienne a été bénie par cette résistance qui a en fait affecté la région aujourd'hui. La présence de l'arrogance a été brisée dans la région et les nations se prononcent contre les États-Unis, a conclu le guide suprême de la révolution islamique.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de cette mobilisation importante anti-française des Maliens. Justement, une France qui depuis 9 ans n'a pas cessé de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et a tout fait pour neutraliser économiquement et militairement ce pays afin de piller ce pays. Dans cette émission, nous allons nous concentrer particulièrement sur les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens par la France, et des sanctions qui n'ont rien donné car le site France 24 a clairement passé à l'aveu, a dit que ces sanctions n'avaient rien donné justement. Et en cette raison, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est rendu cette semaine à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, justement pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine, car depuis 40 ans, les sanctions exercées à l'encontre de la République islamique d'Iran n'ont rien donné à transformer l'Iran en un pays autosuffisant. Voilà, nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
C'est extraordinaire cet aveu d'échec de la France qui s'illustre sur le site de la chaîne télévisée France 24 dans ses quelques phrases inaugurales commentant l'impact de l'embargo sur le Mali. Les voisins du Mali espéraient début janvier qu'un embargo économique ferait plier la junte à la tête de ce pays pauvre et enclavé. Mais un mois après, si de premiers signaux d'alerte sont là, les autorités dominées par les militaires font front. Le voyant le plus visible s'est peut-être allumé fin janvier, quand le Mali s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer des remboursements de plus de 30 millions de dollars empruntés sur le marché ouest africain. Ces quelques phrases d'une nauséabonde hypocrisie et qui se veulent diviseuses à l'endroit des Ouest-Africains, alors même que le monde entier sait parfaitement que la CEDEAO est un moyen de chantage, de division, d'auto-affaiblissement, d'auto-endettement conçu par les puissances néocolonialistes contre l'Afrique de l'Ouest se démentent d'elles-mêmes. Et comment ? Elles reconnaissent que l'embargo signé par Kanessi, qui aurait dû mettre au pas, à peine en quelques jours, le peuple malien, est un cuisant revers, un peu comme cet embargo anti-Iran qui dure depuis 40 ans et qui a fait de l'Iran un pays autosuffisant. Puis, ces quelques phrases, mais là où elles veulent insinuer que les Maliens commencent à en avoir assez et partant à râler, se démentent encore. Et comment ? Une population éprouvée par 10 ans de conflits et de crises économiques, tout lecteur, et à commencer le lecteur pro-résistant de ce site, se demande aussitôt « Mais qui a causé ces 10 ans de guerre et de crise économique ? N'est-ce pas la France qui a occupé le nord du Mali puis le centre pour étendre son ancien destructis au sud sous prétexte d'avoir à combattre les terroristes ? Et puis cette économie malienne avec tous ces chiffres que les multinationaux nous font sortir sur les mines d'or découvertes, sur l'uranium dont les cours ne cessent de monter au grand bénéfice des multinationales. Pourquoi est-elle en crise encore après un si long séjour français ? Le calcul de la CEDEAO et de l'UEMOA est simple, que l'embargo force les autorités dites de transition à soumettre un calendrier acceptable de retour des civils au pouvoir. Le Mali, dépourvu d'accès à la mer, importe 70% des denrées consommées quotidiennement par ses habitants selon l'ONU. Et le lien aujourd'hui restreint avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire est vital. Cheguel Kokala Maïga, chef du gouvernement installé par les militaires, fustigeait lundi les sanctions comme des mesures injustes et sauvages, dont l'objectif est d'asphyxier le Mali et de renverser le régime pour le compte de qui l'on sait, claire référence à la France devenue l'objet récurrent de sa vindicte. Et oui, la plupart des Maliens adhèrent à cette hypothèse et comblent de malheur pour la France, la plupart des Ouest-Africains en font autant. Et c'est pour cela que l'embargo US-France-OTAN contre le Mali a été si judicieusement tourné au ridicule, car aucun État nation côtier n'y adhère réellement. Cela rappelle la campagne de pression maximale US contre l'Iran dont les Américains disent en ce 2022 qu'elle a été la plus grosse erreur géostratégique qu'ils aient jamais commise. En Asie de l'Ouest, il y a un vent similaire qui souffle sur l'Afrique de l'Ouest.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour votre plateau, bonjour professeur Dortiguier. Vous savez que je suis étroitement la situation malienne, puisque je suis proche du mouvement Yerewolo et de sa leader Amina Fofana, qu'on appelle la dame de fer de Bamako, qui sont à la pointe de la révolution malienne.
Parfaitement. Donc, vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions. Un grand bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs. Et bien sûr, avec mes remerciements pour la présence de M. Luc Michel, qui est le meilleur observateur, à notre avis, sur cette question.
Voilà. Alors, ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. M. Luc Michel, alors, pour commencer, c'est un peuple, le peuple malien, prêt à crever de la faim plutôt que de se soumettre à l'occupation étrangère. Je vous en prie.
Écoutez, le peuple malien applique ce que disait Sékou Touré en 1960 à De Gaulle. Il disait « Nous préférons vivre dans la misère que dans la suggestion coloniale ». Mais malheureusement, je ne partage pas l'optimisme de votre reportage. L'embargo est en train de frapper au cœur toute la région. Le Mali est en défaut de paiement vis-à-vis des instances internationales, ce qui était le but des Américains. Mais surtout, les économies agricoles sont en train de pourrir sur place dans toute la région, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Sénégal. Les services de renseignement militaire maliens ont intercepté et publié des conversations entre le premier ministre ivoirien Alassane Ouattara, qui est le principal agent de Macron dans la région, et l'ancien premier ministre malien Sissi. Ceux-ci avouent que le but des sanctions, c'est de détruire et de renverser le gouvernement malien. La France est en prise la main dans le sac, et la propagande française fait croire qu'actuellement la visite de Macron à Moscou, le but était d'échanger l'Ukraine contre le Mali. Ce n'est pas vrai, mais le but, c'est de faire paniquer les populations africaines. Pas du tout. La France n'a pas les moyens d'échanger l'Ukraine contre le Mali. C'est de la pure propagande, mais beaucoup d'Africains sont en train de paniquer. Et le but, évidemment, c'est la misère pour toutes les populations de la région.
Oui, en effet. Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Alors, c'est vrai que la France joue une nouvelle carte et la mobilisation anti-française au Mali est entrée dans une nouvelle étape. Alors, les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, le France 24, justement, dans son site Internet, est passé à l'aveu. Il a dit que ces embargos n'avaient rien donné jusqu'ici, alors que Luc Michel pense le contraire. Que pensez-vous?
C'est-à-dire que, oui, ces embargos n'ont rien donné jusqu'ici, c'est une part de vérité, mais je crois que la stratégie aujourd'hui d'ensemble, je dis stratégie d'ensemble, employée par la France et d'autres États africains, peuvent contraindre, disons, ou sinon contraindre, tout au moins neutraliser le mouvement politique qui est né au Mali. Je dis bien un mouvement politique parce que je parle du fond de l'affaire. Parce que dans les formes, c'est M. Le Drian d'ailleurs, et toute la diplomatie française y insiste, bien sûr, la forme, est la contestation, vous savez, de la légitimité de la politique malienne à cause des deux coups d'État successifs qui ont eu lieu, c'est-à-dire et l'absence d'élections. C'est ce que là-dessus que M. Le Drian fait reposer son argumentation. Je crois que cette conception-là est une conception très abstraite et qu'en réalité, nous avons affaire à une, disons, un blocus de la faim. Je ne vois pas d'autres mots plus adéquats. Mais il faut observer ce que j'ai compris en écoutant le ministre des Affaires étrangères du Mali, interrogé par une de nos chaînes de radio, de télévision, que la France s'est heurtée à une force armée malienne qui était formée dès l'époque dont vient de parler Jean-Luc Michel, à savoir l'époque de Sékou Touré, vous savez, lors de la formation de la Nouvelle-Afrique, disons, avec Foucard, etc. La plupart, beaucoup de Maliens ont été formés à ce moment-là en Russie. Je parle de l'ancienne génération, je ne parle pas de la génération actuelle. Et donc il y a eu, disons, un peu ce qui se passait justement en Guinée, c'est-à-dire qu'il y a une tradition de résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ces militaires et hommes politiques, ne sont pas, surtout les militaires, ne sont pas obnubilés, si je puis dire, par cette France-Afrique. Voyez, et donc, même s'ils sont dans une misère relative, si le pays est dans une misère relative, façon de parler pour adoucir les choses, il y a quand même une décision et une détermination politique. Ceci, je crois, est un fait nouveau. C'est le fait nouveau du Mali. Voyez-vous, il ne s'agit pas de créer, de parler d'élections ou pas d'élections. Il est très difficile, vous savez, de faire quand même des élections dans un pays qui est en état de guerre. Bon, de moins des élections qui soient convenables. Mais il y a un ressentiment de la population, mais surtout, je dirais ça de façon simple et définitive, il y a surtout une crainte de la France-Afrique, puisque c'est ainsi que nous l'appelons, voyez-vous, devant cette génération, non pas une première génération, mais une deuxième, troisième génération de militaires qui ne sont pas, disons, qui n'ont pas été formés dans le sens qu'espérait justement la politique, c'est d'ailleurs la politique gaulliste, c'est vrai, la politique de la Ve République, qui était par ailleurs, monsieur Jean-Luc Michel l'a dit l'autre jour, dans certains domaines américains, etc., et autres, très en avance et même très bénéfique au monde, mais sur le plan africain, nous avons été, cette politique française a été bien sûr dans la tradition de la Troisième République, Quatrième République, c'est-à-dire d'un colonialisme qui ne visait qu'une chose, c'est former les Africains à se battre et à mourir sur les champs de bataille européens. Voilà exactement quel était, avec évidemment les avantages que procurent les matières premières et autres, voyez-vous. Je crois que ces événements maliens auront une importance très grande sur l'avenir de la politique française intérieure chez nous. Je pense que cela pourrait même, dans ses conséquences, peut-être mettre en cause le régime politique que nous avons connu avec l'instauration de la Ve République. C'est-à-dire que cela va fragiliser et ébranler nos institutions et créer de nombreux mécontentements à l'intérieur des élites et du peuple français.
Sans aucun doute. Sans aucun doute. Oui. Luc Michel, M. Pierre d'Ortiguier parle bien sûr de cette détermination politique chez les Maliens, mais les sanctions existent et ça frappe bien sûr le pays et même les pays voisins. Et justement, vous avez dit l'autre jour en parlant du Mali que la Russie et l'Iran se rapprochent du Mali pour régler ce problème malien avec la bonne foi, bien sûr. Et justement, le ministre malien des Affaires étrangères a décidé de se rendre hier justement à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine et de la Russie, bien sûr. Que pensez-vous?
C'est tout à fait exact. Vous savez, la France-Afrique, elle est en train de mourir. Le but des guerres coloniales depuis les guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1950, c'était la conquête des esprits et des cœurs. La France-Afrique a perdu les esprits et les cœurs. Il y a un double phénomène. Les sanctions ont été une erreur majeure. À première mesure qu'on détruit les économies de la région, la colère des populations africaines contre la France est en train de monter. La jeunesse est en révolte, pas seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso et dans tous les autres pays voisins, y compris en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et les coups d'État pro-français, comme au Burkina Faso, puisque là-bas ce sont non pas des militaires pro-russes, mais des militaires pro-français, ils sont en train de dresser contre eux leur population, à la fois contre le régime illégitime néocolonial et contre la France. Au milieu de tout cela, les militaires maliens qui sont notamment le ministre de la Défense, le Premier ministre et le colonel Assimi Goïta, qui sont des pro-russes, maintenant se tournent également vers l'Iran. L'Iran intervient depuis 2 ans à côté de la Russie et elle est en train de mettre au point des mécanismes avec le Sénégal et maintenant avec le Mali pour contourner les sanctions. C'est un phénomène fondamental puisque la France est en train de perdre la main. Il y a un axe Alger, Bamako, Moscou et Téhéran qui est en train de se mettre en place pour contourner l'ordre néocolonial. C'est un phénomène contre lequel la France est impuissante. Ça existe, ça explique la colère des Français, la colère de Macron, de Parlier, de Le Drian. Ça explique pourquoi la France perd la main et pourquoi elle complote avec les agents français dans la région. Les colonels de Guinée-Conakry comme Doumbouya, les colonels comme d'Amico à Ouagadougou, et évidemment tous ces gens sont en train de perdre la France-Afrique qui est en perte de vitesse et qui ne sait que mettre aux mains des mécanismes qui sont dépassés contre les peuples de la région.
Pierre d'Ortiguier, votre point de vue, je vous prie, concernant justement cette visite presque surprise du ministre malien des Affaires étrangères à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, pour parler bien sûr de comment contourner les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, mais également devenir un pays autosuffisant comme l'a réussi la République islamique d'Iran au cours de ces 40 dernières années. Et parlons bien sûr de la Russie, je vous en prie.
Bien sûr. La présence du ministre malien à Téhéran démontrerait très bien ce que Luc Michel a dit en début d'intervention, démontrerait la gravité de la situation au Mali. C'est-à-dire que la gravité dont nous n'avons pas ici, dans l'opinion française, à mon avis, une connaissance adéquate, une connaissance claire, précise. Cette présence montre que, vous savez que, je dirais que je ne vous apprendrai pas, bien sûr, la profondeur du blocus américain contre l'Iran et puis des alliés américains. Mais cette initiative, disons, malienne, je le redis encore, montre la gravité de la situation au Mali. Et je pense qu'elle sera suivie, à notre avis, d'un courant de sympathie envers l'Iran, c'est certain, de la part des États africains. Quels que soient les efforts de certains pays que je ne nomme pas, par exemple, en Afrique du Nord, par exemple, oui, pour pouvoir, disons, diminuer ou calomnier, disons, cette influence iranienne. Je crois que l'Iran, en effet, se présente quand même, c'est un acquis, comme ayant expérimenté et triomphé par la voie de la technique, bien sûr, la voie de, on peut dire, de l'autonomie. Tout ce blocus insensé, inhumain, voyez-vous, auquel, à mon avis, les préparateurs, dont les préparateurs ne doutaient pas du succès, voyez. Je crois qu'il y a eu, je ne dis pas, il ne faut pas non plus employer des mots trop importants, mais enfin, il y a eu de ce point de vue, peut-on dire entre guillemets, un miracle iranien. C'est-à-dire le fait que votre pays ait pu tenir bon contre ce que n'importe quelle autre nation aurait, disons, cédé, voyez-vous, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Bien sûr, il y a...
Absolument.
C'est cela, à mon avis, qui, avec le temps, vous voyez, s'accroît. Parce que le temps grandit les choses. Le temps ne déforme pas les choses seulement. Mais le temps grandit le passé, voyez-vous. Et je crois que là-dessus, le temps africain à venir, c'est-à-dire c'est ce futur que nous connaissons en Afrique, va grandir justement le rôle qu'a eu l'Iran quand il s'agit de résister, de tenir bon, voyez-vous. J'ai souvent l'habitude, je m'excuse de répéter, mais ça c'est peut-être un défaut de mon métier de professeur de philo, mais quand je dis que l'imam Roméni... insister, ne pas sur le fait qu'il n'était ni d'Est ni d'Ouest, mais qu'il fallait rester soi-même. Cela ne signifiait pas être hostile à l'Est ou à l'Ouest. Cela signifie qu'il fallait trouver en soi-même ce qu'on appelle l'autonomie, voyez-vous, les capacités de tenir bon. C'est ce qu'on appelle résister, d'ailleurs, en latin. Vous voyez ? Et c'est cela, je crois, que ceci est un, je ne dis pas un éloge de l'Iran, mais montre justement que l'Iran a, visé juste dans ses politiques, qui peuvent être plus ou moins comprises par les générations, bien sûr. Mais disons que je crois que le temps travaille justement pour cette résistance iranienne. Et cette résistance iranienne s'offre comme modèle. Elle prétend pas devenir un instituteur du monde, mais elle s'offre comme modèle, comme exemple, voyez-vous. Et je crois que la vertu de l'exemple, qui est toujours magnifiée par la suite, voyez-vous, à mon avis, laissera des traces et obligera les grandes puissances, je dis les grandes puissances, hein, à commencer par les États-Unis, à modifier quand même l'attitude arrogante qui était celle jusqu'à présent, et dont je dois dire que même l'attitude, à mon avis, le sommet de l'attitude arrogante a été celle de Trump, évidemment, avec l'assassinat du général Soleimani. Je dois dire que je n'ai jamais connu, à mon avis, un tel cynisme en politique. Et ce cynisme aussi était aux dimensions, voyez-vous, de la peur, pas de la peur, mais disons de la constatation, de la capacité de tenir bon de l'Iran. Voilà, il faut, dans le malheur, il faut aussi voir les marques du bonheur, pas du bonheur, mais dans le mal, il faut aussi voir l'empreinte du bien.
Et tout à fait. Luc Michel, tout de même, jusqu'ici, le rapprochement entre l'Iran, la Russie et le Mali était presque à l'ombre. Les responsables maliens ont déclaré que la Russie, depuis qu'elle a décidé de mettre à la disposition des Maliens des armes, ils ont tué plus de terroristes en un mois qu'ils ont tué en 20 ans par les forces étrangères, dont la France. Mais cette visite du responsable malien à Téhéran, est-ce qu'on peut dire que c'est pour mettre à jour justement ce rapprochement? Donc, il décidait une fois pour toutes de se rapprocher, donc ce sera divulgué par le monde entier que le Mali est avec l'Iran et la Russie pour régler le problème malien.
Il faut comprendre ce qui se passe géopolitiquement. Le Mali est au centre d'une guerre par procuration avec la Centrafrique entre le bloc américano-occidental avec Paris et Washington et le bloc de l'Est avec Moscou, Pékin et Téhéran. La guerre qui se déroule là-bas, c'est d'un côté la guerre hybride de la Russie et de l'Iran contre la guerre classique, économique, médiatique et militaire du bloc occidental. Il ne faut pas oublier que si la guerre hybride a été inventée par la Russie en Ukraine en 2013, ce sont les Iraniens qui l'ont inventée en 2006 au Liban. Précisément, au Liban, le Hezbollah, qui est le principal acteur de la guerre hybride, il a brisé le blocus économique occidental américano-français, et la guerre hybride iranienne, elle a été exportée dans un autre pays qui est touché par la guerre économique occidentale. C'est le Venezuela, c'est Caracas. Il y a un corridor économique Téhéran, Caracas, Dakar, précisément, en Afrique, pour briser le blocus économique iranien. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est au cœur de cette guerre économique avec la Russie et l'Iran. La visite du ministre des Affaires étrangères malien à Téhéran, après sa visite à Moscou, elle est en train d'officialiser cet axe Alger, Bamako, Moscou et Téhéran qui s'opposent à l'axe Paris et Washington. C'est cela qui est en train de s'officialiser, c'est cela qui est en train de se mettre en place. Il y a aujourd'hui un axe économique entre le Mali et le bloc de l'Est qui s'oppose à l'axe économique occidental avec sa politique de l'embargo et du blocus qui frappe le Mali, mais dont tous les peuples de la région, dont le principal agent de la France dans la CEDEAO, qui est Alassane Ouattara, est en train de frapper l'économie de son pays. C'est cela la réalité économique et politique et géopolitique dans la région. Et face à cela, c'est la Russie et l'Iran qui sont les principales alliés du Mali et de la Centrafrique.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Les méandres de la politique étrangère d'Erdogan. Une Turquie profondément ancrée dans l'OTAN se dirige vers l'Est, mais pas de la manière dont vous le pensez. La stratégie Asya Anew, donc d'Erdogan, est axée sur la primauté turque et cela probablement sera donc en contradiction avec les plans d'intégration de la Chine et de la Russie. Cette information est tombée comme un coup de tonnerre au milieu d'une discussion productive avec un groupe d'analystes de haut niveau à Istanbul. Dans l'ensemble de l'établissement turc, des politiciens aux militaires, plus de 90% sont pro-OTAN. Les optimistes eurasiens en Asie occidentale doivent tenir compte de cette dure vérité sur la politique étrangère turque, souvent déroutante. Le néo-otanisme erdoganien, donc, qui traverse le système du gouvernement actuel de la Turquie, est profondément colonisé par une psyché de l'OTAN, ce qui implique que toute notion de souveraineté turque réelle pourrait être sévèrement surévaluée. Et cela jette une lumière nouvelle sur l'éternelle hésitation géopolitique du président turc Recep Tayyip Erdogan entre l'OTAN et l'Eurasie. Commençons par la médiation proposée par Erdogan dans le drame Russie-Ukraine, ce qui à toute fin utile signifierait une médiation entre la Russie et l'OTAN. Le ministre turc des Affaires étrangères n'est peut-être pas celui qui dicte la politique d'Ankara, mais un interlocuteur souligne que l'homme qui a réellement les oreilles d'Erdogan est son porte-parole, Ibrahim Kalin. Néanmoins, les derniers points de discussion de Çavuşoğlu étaient assez intrigants. Premièrement, des sources russes et biélorusses lui ont dit qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine. Deuxièmement, l'Occident devrait être plus prudent dans ses déclarations sur une prétendue invasion possible car elle provoque la panique en Ukraine. Troisièmement, nous, en tant que Turquie, ne faisons pas partie d'un conflit, d'une guerre, d'un problème et cependant, toute tension nous affecte tous, l'économie, la sécurité énergétique et le tourisme. Quatrièmement, nous aurons une conversation téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères, donc Sergueï Lavrov, mercredi, puis avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Nous accepterons volontiers de servir de médiateur si les deux parties sont d'accord et nous acceptons volontiers d'accueillir une réunion du trio de Minsk. Et enfin, cinquièmement, le président russe Vladimir Poutine ne devrait pas fermer la porte. Les Russes n'ont pas de réponse positive ou négative. Les efforts d'Ankara pour se positionner en tant que médiateur sont peut-être louables, mais ce que Çavuşoğlu ne peut pas admettre en public, c'est leur futilité. Même si Ankara entretient de bonnes relations avec Kiev, avec notamment la vente de drones Bayraktar TB2, le cœur du problème n'est même pas entre la Russie et l'OTAN, mais entre Moscou et Washington. De plus, l'offre d'Erdogan avait déjà été écartée par l'opportuniste notoire et totalement dépassée par les événements Emmanuel Macron via sa visite à Moscou, où il a été écarté poliment mais sans ménagement par Poutine. le Kremlin a clairement fait savoir, avant même de formuler ses exigences en matière de garantie de sécurité, que les seuls interlocuteurs qui comptent sont les responsables, comme dans le combo russophobe, néocon, impérialiste, humanitaire qui téléguide l'actuel président des États-Unis. Alors, comment rendre la Turquie grande à nouveau ? Il sera difficile de rendre la Turquie grande à nouveau à Washington, même si les deux pays font partie de la matrice de l'OTAN. C'est une chose d'inaugurer le Turkevi Center, ou maison turque, de 300 millions de dollars à Manhattan, près du siège des Nations Unies, avec une suite présidentielle au dernier étage pour Erdogan. Mais c'est une toute autre chose que les Américains lui accordent une véritable souveraineté. Pourtant, chaque fois qu'il se fait rabrouer, Erdogan trouve toujours une parade épineuse. S'il est empêché de rencontrer les vrais acteurs qui se cachent derrière Biden en septembre dernier à New York et Washington, il peut toujours annoncer, comme il l'a fait, son intention d'acheter un nouveau lot de S-400 russes qui comble, de l'ironie, sont des systèmes de missiles conçus pour détruire les armes de l'OTAN. Comme Erdogan l'a encore proclamé avec audace, à l'avenir, personne ne pourra s'immiscer dans le choix du type de système de défense que nous acquérons, de quel pays et de quel niveau. Les acteurs des pays du Sud, de l'Asie de l'Ouest et au-delà ont suivi avec un énorme intérêt et une certaine inquiétude, comme Ankara, d'une semi-colonne laïque et bien élevée de l'OTAN à la périphérie de l'Union européenne, désireuse de rejoindre la machine bruxelloise, s'est transformée en un hégémon régional à tendance islamiste, avec le soutien et l'armement de rebelles modérés en Syrie, l'envoi de conseillers militaires en Libye, l'envoi de drones armés en Azerbaïdjan pour vaincre l'Arménie, et enfin et surtout, la promotion de sa propre version idiosyncrastique de l'intégration eurasiatique. Le problème est de savoir comment la Turquie est censée payer pour toutes ses ambitions excessives compte tenu de l'état désastreux de son économie. Un certain nombre de politiciens du Parti de la Justice et du Développement à Ankara sont de fervents promoteurs d'un monde turc qui s'étendrait non seulement du Caucase à l'Asie centrale, mais aussi jusqu'à Yakoutie, à l'extrême est de la Russie, et au Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine. Il n'est pas difficile d'imaginer comment cela est perçu à Moscou et à Pékin. C'est en fait Devlet Bahçeli, le chef du parti d'extrême droite, mouvement nationaliste, un allié de premier plan d'Erdogan qui a présenté une carte révisée du monde turc au président turc. La réponse du porte-parole du Kremlin, donc Dmitri Peskov, qui se trouve être un turcologue, avait été inestimable. À l'époque, il avait déclaré que le cœur du monde turc devait se trouver dans les montagnes de l'Altaï, c'est-à-dire en Russie et non en Turquie. Et cela nous amène à l'organisation des États turcs, la nouvelle dénomination de l'ancien Conseil turc, telle qu'approuvée par leur 8e sommet en novembre dernier à Istanbul. L'OET compte 5 membres, donc la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan, et 2 observateurs, donc Hongrie et Turkménistan. Le secrétaire général est un diplomate kazakh, Bardad Amreyev. Une première visite de leur charmant palais historique de couleur saumon à Sultanahmet avant une prochaine conversation officielle permet d'établir un contexte bien nécessaire. Parmi les éblouissantes structures byzantiques et ottomanes voisines, on trouve la tombe du dernier sultan ottoman, Abdulhamid II, qui se trouve n'être autre que le modèle d'Erdogan. Selon la personne à laquelle on s'adresse, les médias largement contrôlés par l'AKP ou les intellectuels kémalistes, Abdulhamid II est soit un vénérable chef religieux qui a combattu les subversifs et les puissances coloniales occidentales à la fin du XIXe siècle, soit un cinglé fanatique et rétrograde. « L'OET est une organisation extrêmement intrigante. Elle réunit un membre de l'OTAN doté de la deuxième armée la plus puissante, donc la Turquie, un membre de l'Union européenne, la Hongrie, donc qui n'est encore qu'un observateur, et deux membres de l'OTSC, c'est-à-dire des États très proches de la Russie, et une superpuissance gazière suprêmement idiosyncrastique à la neutralité permanente, donc le Turkménistan. Même au siège de l'OET, on s'accorde à dire avec le sourire que personne en dehors de la Turquie ne connaît les véritables objectifs de l'organisation, qui sont vaguement formulés comme des investissements dans la connectivité, les petites et moyennes entreprises, les technologies vertes et les villes intelligentes. La plupart des investissements seraient censés provenir d'entreprises turques et jusqu'à récemment, Erdogan ne s'intéressait pas vraiment au monde turc d'Asie centrale, considéré comme trop laïque d'un point de vue islamiste, ou pire encore, comme une bande de redoutables crypto-kémalistes. L'accent était mis sur la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, définie par les États-Unis qui historiquement comprenaient les principaux territoires ottomans. Et l'histoire montre bien sûr que ces incursions néo-ottomanes n'ont pas été très bien accueillies dans les pays musulmans, d'où le retour spectaculaire de l'Eurasie dans la politique étrangère turque, et c'est une bonne idée en théorie, mais beaucoup plus compliquée en pratique.
Thank you.